La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Avec plus de succès que jamais sans doute, la droite semble depuis quelques années, en France comme ailleurs, être parvenue à faire triompher l'une de ses stratégies performatives les plus classiques, faire croire à la disparition du clivage droite-gauche. Étonnant comme ce tour de passe-passe éculé fonctionne encore, d'autant peut-être d'ailleurs que le public n'est plus dupe du tout. Pour qui veut comprendre l'état désintégré de la politique, il ne suffit pas simplement, pourtant, de s'accrocher à la réalité inchangée de ce clivage gauche-droite. Ce sont, au contraire, les mouvements souterrains qu'il convient d'observer, ceux qui traversent les structures, les couches profondes de l'espace public et se traduisent parfois par des phénomènes plus ou moins discernables à sa surface médiatique. Yves Citon a rigoureusement et poétiquement cartographié ce nouveau paysage politique afin d'en dégager les polarités et les tensions afférente, il est aujourd'hui l'invité de la suite dans les idées. Des tensions et des polarités qui, la plupart du temps, traversent non seulement l'espace public, mais aussi les individus, les personnes. Deux personnes, Omar et Greg, qu'on trouve au titre du nouveau livre de François Beaune, qui paraît au Nouvel Attila. François Beaune sera notre invité dans la seconde partie pour dialoguer avec Yves Citon de ces polarités et de ces tensions politiques. Bonjour Yves Citon.
Bonjour.
Vous êtes professeur de littérature et médias à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Vous co-dirigez la revue Multitude et vous publiez chez Fayard dans cette nouvelle collection Raison de Plus, dirigée par Najat Vallaud-Belkacem, ce livre Contre-courant politique. Alors dans ce livre, on trouve tout un tas de mots qu'on ne connaît pas et pour cause, vous les avez inventé. On reconnaît là bien votre origine littéraire, si l'on ose dire, votre souci de la poésie pour dire le monde. Mais ce livre s'inscrit dans une longue réflexion qui est la vôtre aussi pour les questions d'espace public, les questions d'attention. Et vous nous dites, comme vous en avez déjà prévenu il y a quelques livres de ça, que s'il faut se soucier de l'attention médiatique avec un L apostrophe, il faut aussi se soucier des tensions. Et c'est autour de cette métaphore des tensions au sens électrique du terme et de polarité que vous avez procédé pour cartographier un nouvel espace politique. Comment est venue cette image qui est plus qu'une image, qui est un outil véritablement d'enquête pour vous, Yves Citon ?
Alors, d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. On peut partir de la notion peut-être de polarité. Ce que j'essaye de faire dans ce petit ouvrage, c'est de partir de la polarité gauche-droite dont, comme vous, je me méfie pas mal des gens qui nous disent qu'elle n'existe plus. Et en même temps, comme vous, je me dis qu'elle n'est pas complètement satisfaisante, à savoir que souvent, lorsque je dis gauche, je vois pas mal de gens que je pense être de gauche qui me disent qu'en fait, la gauche, ils n'y croient plus ou qu'elle nous a trop fait, etc. Donc, comment sortir de ceci sans simplement tout aplatir et dire qu'on est tous des marcheurs ou des coureurs. L'idée, c'était de multiplier les polarités. Et donc de se dire que, mettons que la gauche, on sache plus très bien comment la définir, même si certains d'entre nous peuvent continuer à la sentir de l'intérieur, ça serait peut-être utile d'identifier des pôles qui nous donnent, comme un pôle nord et comme un pôle sud, des extrêmes, et que nul d'entre nous ne vit ni au pôle nord ni au pôle sud parce qu'il fait trop froid, qu'on est toujours quelque part entre les deux, mais au moins que ça pourrait nous aider à nous orienter. Alors ces pôles, c'est alors des choses comme les accélérationnistes et les ralentissements. Ou arrivistes ou les inséparatistes. On en verra peut-être quelques-uns plus tard.
On va en prendre de ces couples parce qu'au fond, je disais, c'est un paysage politique que vous cartographiez. C'est juste une proposition. Il y a probablement beaucoup plus de polarités que celles que vous avez discernées. D'ailleurs, on se dit qu'après tout, vous allez peut-être prolonger ce travail. Mais enfin, on a déjà 9 couples, 18 mots pour la plupart nouveaux qu'on n'avait jamais lus avant. Ce qui nous met dans une expérience intellectuelle aussi étrange et intéressante. C'est cet estrangement, au fond, qui nous permet de comprendre ce à quoi on a affaire. Et là, je voudrais peut-être qu'on s'arrête un moment là-dessus, sur votre usage de la langue, des mots, comme outil d'enquête de cette réalité contemporaine.
Tout à fait. Alors moi, j'ai aucune autorité à parler en termes de sciences politiques ou de sociologie politique ou de quoi que ce soit. Je ne sais pas si j'ai une autorité littéraire, mais en tout cas, j'ai une pratique qui me sensibilise à certains usages de certains mots ou à certaines formes de syntaxe aussi. Et il me semble qu'on manque de mots. Alors, vous dites que je les ai inventés. Il y a certains mots que j'ai inventés,
oui,
comme lianagiste, etc. D'autres qui existent, le mot extractivisme ou extractiviste, ça existe. Et simplement, je suis frustré du fait que ça existe dans de tout petits milieux, de tout petits cercles. Il y avait Terre à Terre, l'émission Terre à Terre sur France Culture qui développait toute une série de choses très belles sur l'extractivisme. Mais finalement, il me semble que ça rayonne pas assez. Et donc, j'essaie de faire un livre pour dire, voilà, là, il y a un concept, un mot qui est intéressant. Et je le reprends et je vous propose d'en faire une polarité centrale pour nous situer dans l'espace politique contemporain.
Parfois, vous prenez aussi des mots qui existent, comme arriviste, mais vous en donnez une acception différente et plus riche, plus intéressante. Par exemple, arriviste, pour vous, c'est celui, on pourrait dire, Pierre Bourdieu disait, les tard venus. Ceux qui, arrivant en tard, ferment la porte derrière eux, par exemple. Vous savez, on dit souvent, et on relève, François Héran, qui travaille sur l'immigration, a noté il y a longtemps un lien entre certains parcours de migration et le vote Front National, ou par exemple. Ce qui peut, de prime abord, surprendre, en fait, s'explique à travers cette façon que vous avez d'utiliser le mot arriviste.
Tout à fait. Alors, j'avais ce type d'analyse-là en tête, et je l'ai traduit par le mot arriviste en prenant l'exemple très simple du fait que quand on rentre chez soi tard le soir ou qu'il fait froid dehors, on est content d'arriver où il fait chaud, on peut se faire une petite tasse de thé et on ferme la porte et on a besoin de cette porte pour que le froid reste dehors et puis que le chaud reste dedans. Et c'est pas forcément être raciste, c'est pas forcément voter FN, c'est voilà quelque chose, on a des fois on a besoin de portes. Qu'est-ce que c'est que ces portes? Qu'est-ce que c'est que ces portes qu'on ferme une fois qu'on est arrivé? Et après forcément, on peut se dire bah tiens, peut-être qu'il y a quelque chose dans les sentiments du FN qui sont là-dedans, mais peut-être que c'est pas complètement alien, que c'est pas complètement barbare, ignorant, stupide, raciste, etc. Il y a peut-être de ça qui se met dedans, mais il y a peut-être quelque chose qu'on a tous un petit peu en nous aussi, et que de voir cette polarité arriviste d'un côté et de l'opposer à une polarité inséparatiste de l'autre qui nous dit que finalement toutes ces portes qu'on ferme, eh bien il faut s'en méfier parce qu'il peut s'accumuler des choses derrière qui risquent de les écraser, ou alors que peut-être il y a quelqu'un derrière et qu'on aurait vraiment intérêt à dialoguer avec lui plutôt qu'à le laisser crever dehors. Donc il y a chaque porte est problème. Elle peut être nécessaire, mais elle fait problème. Et à la fin, dans la fin de, il y a un petit essai un petit peu plus qui prend un petit peu de distance. Et je parle d'histoire de gonds. Je dis que la politique est une histoire de gonds, c'est une histoire de gonnerie, parce que justement, c'est une histoire de porte qu'on peut soit ouvrir, soit fermer, et que tout compte un petit peu dans la façon dont on va entrouvrir la plupart des choses. Parce que les portes purement fermées à l'âge de l'inséparatisme, je crois pas que ça tient. Simplement, ça craque ou alors ça pourrit dedans ou dehors. Et complètement ouverte ou d'abolir toutes les portes, eh ben c'est pas comme ça. Justement, on vit parce qu'il y a des différentiels de température et autres. Donc, tout est une question de gonds, de conneries, de comment on va faire entrouvrir, mais pas complètement ouvert, pas complètement fermé.
Oui, vous aimez bien jouer avec ces mots aussi. Pour vous, les politiques, les responsables politiques, ce sont ceux qui sont là pour dire ces gonneries.
Voilà. Exactement.
Donc, et s'occuper de qui entre, qui sort aussi.
Ouais, ce qui, etc. Toutes ces questions-là.
Voilà, que comment ça travaille.
Voilà, que ça soit de l'information, que ça soit des corps, que ça soit du capital, que ça soit de l'influence, que ça soit des images, etc. Donc il y a un jeu. Voilà, c'est des jeux de mots. C'est un petit peu idiot de dire gonnerie, etc. Ça fait rire ou ça fait pas rire. Et derrière ça, il y a un travail littéraire plus fondamental qui est à la fois de se dire, bah les mots comptent. Et donc, il y a des mots qui circulent pas assez, essayons de les valoriser. Si on faisait de la politique à travers ce vocabulaire-là, qui est quand même un vocabulaire nouveau, même si je l'invente pas, je crois qu'on gagnerait quelque chose. Et les phrases comptent aussi, et les accords qu'on fait avec ces mots. Et là, il y a tout un jeu aussi entre littérature, écriture et politique, qui concerne le genre, où j'essaye de faire une écriture inclusive, mais moi, j'ai pas de grande appétence esthétique pour les points, ou les tirets, ou les parenthèses qu'on met partout, je trouve ça pas très très beau. Donc, ce que je fais, c'est que j'essaye de prendre le lecteur et la lectrice en, de temps en temps, accordant au féminin. Donc, nous toutes, nous sommes toutes un petit peu inséparatistes ou toutes un petit peu arrivistes. Et moi, ça me choque un peu parce que j'ai pas l'habitude de dire nous toutes. Et voilà, j'essaye de jouer là-dessus sur des petits peu de troubles dans le genre, et c'est des petits déplacements qui me semblent, pour lesquels il me semble que la littérature est un moyen utile.
Ce que vous troublez aussi, c'est l'ordre de l'essai, en choisissant d'intercaler entre vos textes des images, par exemple, ou des paroles de chansons, des images que vous avez prises en photographiant des graffitis, des mots, encore une fois, sur les murs, beaucoup d'entre eux écrits sur les murs de cette faculté dans laquelle vous enseignez maintenant à Paris 8, ou d'autres lieux, mais qui renvoient, font écho, en quelque sorte, à cette situation du paysage politique, Yves Citon.
Absolument. Et donc là, il y avait un souci à la fois documentaire. Moi, je parle et donc je traduis tout dans mes petits mots à moi, et c'est un peu mon boulot, je le revendique. Extractiviste, inséparatiste, etc. Et en même temps, j'essaye de décrire une situation. C'est un livre qui essaye de décrire des sentiments, des affects que je trouve en moi, que je crois entendre dans ce qui circule autour de moi. Donc il y a ce côté descriptif ou documentaire. Il me semble qu'une des plus belles choses que je pouvais faire aussi pour illustrer ce que peut la littérature aujourd'hui, c'était prendre cet espace qui est l'espace de Paris 8, qui a été occupé ce printemps, sur lequel se sont affichés toute une série de slogans, de dessins, de formules, dont certaines me semblaient des formules d'une poéticité politique ou d'une politicité poétique, je peux vraiment pas faire la différence entre l'un et l'autre, qui était aussi forte que ce qu'ont fait les plus grands poètes de l'histoire de la littérature. Et donc j'ai pris ça, pas tous, hein, il y en a certains qui sont des slogans amusants, mais il y a certains qui sont vraiment très très forts, et je me suis dit, tiens, je vais me faire simplement le documentariste de ça, sans que forcément je sois d'accord avec. Par exemple, à la fin du livre, il y a, je fais une partie sur les conflitistes. Et je trouve ce slogan qui est repris depuis longtemps, mais qui réapparaît quand même fréquemment sur nos murs. Il faut passer du rêve à la réalité. Il faut passer de la grève à la lutte armée. Et moi, forcément, pas forcément, mais il se trouve que je suis pas partisan de la lutte armée. En même temps, je trouve que ce graffiti, soit que je le trouve sur un mur en 2018 à Paris 8, avec toute une série de blocages qui se passent autour de nous, je vais pas me faire apologiste de la lutte armée, mais je vais entendre ce qui se dit à travers ça. Et là, il me semble qu'il y a un travail de traduction que moi, j'ai pas à faire. J'essaye de le faire en opposant les irénistes auxquels je m'identifie, aux conflitistes dont je reconnais la pertinence, et je me dis de plus en plus, malheureusement, que peut-être qu'ils ont raison, même si moi, je suis de l'autre côté. Et donc là, j'essaye de donner des éléments de vision et de synthèse. La poésie, en allemand, c'est la Dichtung, la condensation. Et il me semble qu'il y a un certain nombre d'effets de condensation qu'on trouve sur les murs de Paris 8, où lorsque moi, j'enseigne la littérature, en gros, je bavarde, et les graffeurs, ils disent des choses beaucoup plus pointues et beaucoup plus frappant.
Les graffeurs et les rappeurs, parce que vous reprenez aussi des paroles.
Tout à fait. Pour moi, c'est très important. Je suis venu très très tard dans le rap, à cause de clichés, de classistes et autres. Et puis, j'étais pas vraiment en France, donc j'ai pas vraiment entendu le rap français. Et là, je découvre plein de choses. Je suis émerveillé. Et quelqu'un comme Cazet, par exemple, j'ai une admiration sans borne pour Cazet. Et donc, j'étais heureux de pouvoir mettre un petit extrait de Cazet là-dedans, parce qu'il me semble, si quelqu'un a des choses intéressantes et importantes à nous dire sur certains aspects de la société française, et de le dire avec justement une puissance poétique et musicale et autres rares, c'est quelqu'un comme Cazet.
Alors vous disiez tout à l'heure, je me situe par exemple, je ne suis pas du côté des conflitistes, je suis de l'autre côté. Comment vous vous êtes situé par rapport à ces polarités? J'imagine que la plupart du temps, il y a une part de vous qui est dans un camp et l'autre dans l'autre, et que vous êtes vous-même, comme nous tous, traversé par ces tensions. Parfois en étant à 95% d'un côté et 5% de l'autre, et parfois à 50-50, ce qui doit être un peu plus compliqué encore, Yves Citon.
Tout à fait. Donc tout à l'heure, je parlais des pôles nord et des pôles sud. C'est clair que je crois pas que je m'identifie complètement, soit par les idées, soit, toute la différence, c'est aussi ce qu'on dit, ce qu'on pense, puis ce qu'on fait. Donc je pourrais dire que j'essaye d'être aussi critique que possible de l'extractivisme, que j'essaye de me mettre au pôle complètement opposé de l'extractivisme, que ici j'appelle le lianagisme.
Ça, c'est mes idées. Au mouvement guadeloupéen.
Voilà, au mouvement guadeloupéen, lianage contre profitation. Et en gros, le lianagisme, c'est d'entretenir les milieux, les enchevêtrements des milieux qui nous permettent de vivre, les lianes, les liens, les mycéliums, etc., qui nous permettent de vivre, et non pas d'être extractiviste, à savoir de creuser la terre, pomper le pétrole, l'envoyer dans l'atmosphère et pas s'intéresser à ce que ça va faire, ni dans les trous qu'on a laissés, ni dans ce qu'on envoie par-dessus nos têtes. Donc, dans ce pôle-là, c'est clair que j'ai envie de dire, moi je suis lianagiste et je lutte contre l'extractivisme. et en même temps comment je vis. Enfin, mes idées peuvent être aussi idéalistes qu'on veut, et de fait, je mange des trucs, je consomme des trucs, je prends des trains, ça fonctionne aux centrales nucléaires, des fois je prends des voitures, il y a bien du pétrole qui vient de quelque part. Donc, de facto, je suis déchiré entre ce que je dis, ce que je fais, et je suis un petit peu, comme vous dites, entre les deux. Alors, une des prétentions du livre qui s'affiche sur la quatrième de couverture, c'est de nous aider à nous réorienter. Et j'ai une remarque d'Anthony Mazur, que vous connaissez parce qu'il était là il y a l'année dernière, je crois, dans la suite, dans les idées, qui me disait, oui, mais ton truc, c'est sympa, mais tu me désorientes encore plus parce que j'ai les deux pieds dans chaque polarité. Et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a les deux pieds dans chaque polarité? Et là, il me semble que c'est une sorte de prémisse de penser les problèmes politiques aujourd'hui, de se dire justement comment on fait lorsqu'on a un peu les deux pieds. Donc, il faut rééquilibrer un petit peu de l'autre, mais on va pas être pur, on va pas être complètement ici et complètement là. Et c'est cette espèce d'inconfort qui me semble faire partie d'un travail de réorientation qui est forcément pas simple. Et pour moi, un des grands problèmes que j'ai à l'horizon de ce type de travail, c'est-à-dire peut-être que ce dont on a besoin, c'est le simplisme. Et là, j'aide pas beaucoup, peut-être.
Non, parce que rien n'est simple, tout est tendu entre deux pôles chaque fois, et peut-être pour que ce soit un peu plus concret pour les éditeurs, on peut revenir sur certains des couples sur lesquels vous avez travaillé. Commençons par le premier. D'abord, le mot est simple. Le premier des mots est simple. Les automobilistes, même si derrière les automobilistes, on va trouver quelque chose d'un peu plus compliqué que ce qu'on peut imaginer. Les automobilistes, vous les opposez aux médialistes. Qu'est-ce que vous entendez par là, Yves Citon ?
Alors là, je suis parti de quelque chose. Moi, je suis suisse d'origine et de nationalité. Et donc en Suisse, mais je crois que c'est le cas en Allemagne aussi, il y a eu un certain temps des partis des automobilistes. Et tout le discours que j'essaye de tenir, c'est de dire les partis, moi, je comprends pas. Je sais pas très bien comment ça fonctionne. C'est pas mon truc. Et je parle de tendance, hein, de tendance ou de courant. Courant, tendance, etc. Et là, il se trouve qu'il y a un parti qui s'affiche comme parti, mais qui me semble illustrer plutôt une tendance. Et c'est quoi être automobiliste ? C'est être enfermé dans son petit espace, être plus ou moins systématiquement dans des bouchons, où l'autre devant moi, c'est pas mon ennemi, à savoir que j'ai rien contre lui, si ce n'est que s'il n'était pas là, j'irais plus vite. Et donc, il y a une situation existentielle dans laquelle on se trouve, qui est pas naturelle, qui est pas... c'est parce qu'on a fait des voitures, c'est parce qu'on a fait des routes, c'est parce qu'on a fait tout ceci, du pétrole, etc., qu'on se trouve dans les voitures, et que cette situation conditionne une grande partie de nos affects. Moi, je sais que les rares fois où je conduis des voitures, je suis en colère, j'engueule tout le monde, et voilà, et je suis ni fasciste, ni conflictiste, ou quoi que ce soit,
non, mais juste la voiture... automobiliste.
Automobiliste, exactement. Donc, il y a à la fois un parti qui se réclame des automobilistes, je trouve ça très symptomatique. Et ce que j'essaye de mettre de l'autre côté, donc, qu'est-ce que ça serait que le pôle opposé à être enfermé dans son truc?
C'est pas les cyclistes.
Alors, ça pourrait être les cyclistes. Après, il y a un arbitraire là-dedans. Là, j'essaye justement de surprendre un petit peu les attentes, et donc, ça sera les médialistes, parce que les médialistes pensent en termes de milieu, en termes de moyens de milieu, et donc, au lieu de dire c'est le con devant moi qui m'empêche d'aller plus vite, c'est la circulation, c'est la façon dont on construit nos milieux.
C'est le plan des rues, le plan des villes, par exemple, c'est tout ce qu'il peut y avoir de commun, de collectif, et qui s'oppose à l'individu. Individualisme exacerbé de l'automobiliste.
Voilà, tout à fait.
On pourrait dire que c'est le pôle plus social, là où on a un pôle plus individuel du côté de l'automobiliste.
Tout à fait.
On retrouve ce type d'opposition.
Avec l'idée quand même que je considère aussi l'automobiliste d'un point de vue un petit peu médiologique, à savoir que je suis dans ma voiture pris dans les bouchons et j'écoute Zemmour ou je sais pas qui, ou Rush Limbaugh aux États-Unis qui me conforte là-dedans, qui me dit les autres, s'il y en a d'autres qui veulent venir encore en plus, ça va encore faire plus de bouchons. Et non, là, le bateau est plein parce que la route est pleine et parce qu'on est embouteillé. Et donc là, pour moi, dire médialiste, c'est aussi dire, ça fait un petit peu la suite avec les travaux que j'avais fait avant sur des questions de médiarchie, c'est la façon dont les milieux non seulement se construisent matériellement, mais se construisent médiatiquement, ou par des effets de médialité, qui vont déterminer après nos orientations politiques.
Autre couple de polarité que vous explorez, assez facile spontanément peut-être à comprendre plus que d'autres, les ralentistes, les accélérationnistes. L'accélération, il en a été question, on connaît le livre qui a eu un certain succès de Hartmut Rosa, cette idée qu'on vivrait dans un monde qui va toujours plus vite, du fait des progrès techniques, mais pas seulement, des changements de mode de vie, et que face à ça, on voit apparaître des mouvements de ralentissement, slow food par exemple, ça structure aujourd'hui une partie de l'espace public pour vous.
Alors il me semble que c'est une des façons de se reconnaître là-dedans, ou de se situer, de se positionner plutôt là-dedans. C'est un discours dans lequel, de nouveau, j'ai complètement un pied qui consiste à dire tout va trop vite, c'est évident, il faut qu'on ralentisse, il faut qu'on se déconnecte, etc. Là, tout le monde le dit, donc j'ai pas besoin de le répéter. Et puis, il y a des bizarroïdes qui ont fait un manifeste accélérationniste. Laurent de Sutter en a fait un petit livre avec plein de textes différents, etc., qu'on avait traduit dans Multitude, ce manifeste, et qui nous dit « Attention les gars, peut-être que c'est parce qu'on va pas assez vite ». Qu'on est où on est. À savoir, il y a un retard énorme des rapports de propriété, de la façon dont on conçoit et dont on implémente les rapports de travail, les modes de production, et on est en retard. On ne va pas assez vite. Il faudrait accélérer ceci pour le mettre à la hauteur. Donc, toute une série de ces chapitres ou de ces polarités, c'est en effet pour prendre des choses qui sont évidentes et les retourner. Il y en a un autre sur les terroristes et les désiristes, je crois, et les terroristes, je l'écris comme terreur, pas les terroristes.
Mais les terroristes, oui.
Voilà. Pour dire, bah oui, on parle beaucoup de terrorisme, donc voilà, donc on peut pas l'ignorer. Et en même temps, moi, ça me semblerait beaucoup plus utile de parler des terroristes, qui sont non seulement les quelques rarissimes individus qui se font exploser, qui attaquent au couteau, etc., mais tous ceux qui vivent de cette terreur, tous ceux qui vivent d'analyser ça, d'en parler, de diffuser la peur, de se faire élire sur la peur. Il y a toute une sorte de grosse
agglomération. Finalement, les mettre dans le même camp, plutôt que de
Exactement.
Les penser dans deux camps
voilà.
différents,
voilà.
les mettre dans le même camp
voilà.
et les opposer à un autre
Voilà.
camp que vous appelez les désiristes.
Voilà. Qu'il y a le camp, si on veut, ou la tendance, ou le courant qui vit de la peur, de la terreur, de la crainte, et puis il y aurait d'autres choses qu'on n'identifie pas comme un camp comme tel, mais qui sont plutôt des politiques de l'espoir, des politiques du désir, de la construction, etc., etc.
Certains des camps, vous n'êtes pas tendre, vous êtes réaliste, vous les qualifiez de ridicules, de naïfs, vous dites qu'ils ont tort, vous n'êtes pas dupe complètement des difficultés de certains des camps dont on pourrait spontanément se dire que vous êtes plus proche au fond de ces pôles-là.
Ça, c'était la règle du jeu un petit peu littéraire, de l'énonciation littéraire dans laquelle je me porte, à savoir, qui est-ce qui parle dans ce livre? Ben, c'est moi, parce que c'est moi qui signe, et puis c'est les idées qui passent par ma tête, elles sont limitées par la taille de ma tête. J'essaye de parler en même temps, à travers moi, c'est un nous. Ce nous...
Conjugué mais... parfois au féminin, donc
voilà,
au singulier,
absolument.
Au pluriel, tout
voilà,
ça mélangé.
Voilà, mais un nous très problématique. Et ce que j'essaye de faire, c'est plus je me sens proche d'un certain type de nous, d'un certain courant, que ce soit les désiristes, que ce soit les lianagistes, que ce soit les irénistes à la fin, plus j'essaye d'être critique envers eux, c'est-à-dire moi, c'est-à-dire le nous qui s'identifie à ça. Donc en fait, si on faisait une statistique idiote en regardant le nombre d'attaques faites dans le livre contre un courant et l'autre, on s'apercevrait que c'est toujours là où c'est le plus attaqué, où les illusions sont le plus dénoncées, que finalement je me situe. Mais l'exercice à la fois critique, peut-être de pensée, de réflexion et de littérature, c'est d'employer des voix qui se décalent un petit peu de soi-même pour essayer de se dire, bah oui, on a raison de me critiquer ou de nous critiquer quand on dit ceci. Et l'autre point de vue a sans doute raison, même si ça me plaît pas, si ce n'est de dire et de faire cela, au moins il y a des raisons qui le poussent à dire et à faire cela. Et tant qu'on n'aura pas compris ces raisons qui poussent quelqu'un à voter Front National, par exemple, ou d'autres partis qui sont pas forcément mieux aujourd'hui, on n'aura pas fait avancer la chose.
Il y a une polarité à propos de laquelle on a du mal à vous situer, peut-être plus encore que les autres, en se disant peut-être que là, c'est pas loin de 50-50, c'est transparentiste-opaciste. Transparentiste-opaciste, c'est les transparentistes, c'est les gens qui plaident pour le fait de rendre transparent l'espace public et qui demandent des comptes aux responsables, les journalistes d'investigation, vous parliez des consortiums de journaux qui ont fait les Panama Papers, etc. Bon, toute chose louable, importante, mais d'un autre côté, il y a aussi la crainte que tout devienne transparent, alors même que l'opacité, et là vous citez Édouard Glissant, alors c'est étonnant de voir d'un côté finalement Edoui Plenel opposé à Édouard Glissant, parce que on pourrait avoir l'habitude de les voir ensemble, et là ils sont complètement opposés dans ce chapitre.
Justement, ils créent un pôle qui m'aide à moi-même à essayer de poser des limites, parce que c'est ça après, c'est de se dire ben, y a un pôle ici et un pôle là qui sont pas tenables, et où est-ce qu'on va mettre la limite entre deux? Et c'est des questions très concrètes que j'essaye d'aborder trop rapidement, comme par exemple le fait de mettre une caméra sur un policier en se disant que ça va peut-être aider à ce qu'il y ait moins d'abus, de violences policières sur les jeunes de banlieue. Ben, je me dis, ben, ça c'est une forme de transparence, parce que tout va se faire enregistrer lorsqu'un policier parle à un jeune de banlieue, et peut-être qu'il y aura des transformations, donc moi je suis plutôt pour ça. Et en même temps, je prends cet exemple d'une collègue de, je crois que c'était à Singapour, qui me dit qu'il y a une caméra de télévision dans sa salle de cours, qui est universitaire. Et là, je me dis, bah, est-ce que je veux vraiment qu'on enregistre ce que je dis à chaque moment? Bah, j'ai rien à cacher. Donc, pourquoi pas? Et en même temps, bah, là, je répugne un petit peu à ça. Donc, où est-ce que je vais mettre pour le policier, c'est OK, pour moi, bon, les deux, on est fonctionnaires, où est-ce qu'on va mettre la limite? Et forcément, d'un côté, il y a la beauté du travail de journaliste, qui fonctionne d'absolument indispensable, ou de Transparency International, etc., de dénoncer la corruption, et comment ne pas être pour ça. Et d'un autre côté, il y a le système de points pour la vertu sociale, Zima Ranking, qui se met en place en Chine, où là, tout est tellement transparent que chacun de nous reçoit un chiffre qui nous dit si on est plus ou moins fiable pour faire des emprunts, pour prendre des trains, etc. etc.
Selon le système de Airbnb, voilà, par exemple, exactement. On est noté par les utilisateurs.
Voilà. Donc, bon. Tout, on cumule et on agrège toutes ces formes de notation et ça nous donne un chiffre de vertu sociale. Et, je sais pas, moi,
oui,
a priori, ça me fait un petit peu peur quand même. En même temps, je me dis que dans les villages d'Ancien Régime, tout le monde se connaissait un peu, puis ça avait des effets du fait que tout le monde se connaisse un peu. Ici, on peut pas tous se connaître alors qu'on est tous dépendants les uns des autres, interdépendants et intradépendants les uns des autres. Donc, pourquoi est-ce que c'est pas le village planétaire de notre ami McLuhan qui se met en place comme ça? Et puis peut-être ça nous plaît pas trop, de même que les commères du village nous plaisaient pas trop, mais c'est un fait de la vie. De nouveau, je suis plutôt contre et ça m'inquiète beaucoup. Et en même temps, c'est pas simple. Alors, par ailleurs, cette histoire de opacité, c'est aussi tout ce chapitre-là, c'est un discours, enfin une sorte de réflexion sur la bureaucratie. Parce que quand on dit qu'on veut rendre les choses transparentes, elles ne sont pas transparentes toutes seules, donc il faut mettre des évaluations, il faut mettre toute une série de dispositifs qui ont leur lourdeur propre. Et moi, il me semble qu'un des gros problèmes, de nouveau, par rapport à la politique française, c'est la non-dénonciation de la bureaucratie, où là, tout le monde dénonce la bureaucratie, mais de façon très, très superficielle et sans la prendre au sérieux, alors qu'il y a vraiment des choses importantes à dénoncer et à transformer là-dedans, et qu'une partie de ce qui a élu Trump, une partie de ce qui nourrit vraiment une réaction politique, je crois que c'est la non-prise en compte de cette rancœur, qui est à mon avis très saine, contre la bureaucratie.
Alors il y a une autre polarité, je pense qu'on va en parler dans la deuxième partie de l'émission, c'est souverainiste individualiste. Individualiste tout simplement parce que c'est une manière d'insister sur le fait que nous ne sommes pas des individus, mais nous sommes des dividus, Yves Citon.
Absolument. Là, de nouveau, moi, j'invente rien. Je reprends ça soit d'anthropologue comme Marilyn Strathern, soit de philosophe comme Deleuze et Guattari qui utilisait ça, soit de quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Brian Massumi, qui a vraiment développé une pensée deleuzienne du individualisme. Et l'idée, c'est de se dire que, comme je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, nous sommes tous divisés à l'intérieur de nous-mêmes. Je disais, on a un pied d'un côté, un pied de l'autre. Et que la façon dont la société algorithmique se met en place, c'est de nous traiter comme des profils. Et que ces profils n'ont pas besoin d'être consistants, n'ont pas besoin d'être cohérents. À savoir, pour quelqu'un qui veut me vendre des livres... Voilà. Quelqu'un qui veut me vendre des livres, il aura un certain profil. Quelqu'un qui veut m'enrôler dans un parti, peut-être que ça sera lié. Quelqu'un qui regarde ma consommation d'eau, ça sera peut-être différent. Et que nous-mêmes, alors c'était capitalisme et schizophrénie de Deleuze et Guattari, hein, c'est, on est tous un petit peu schizophrènes, mais schizophrènes, ça fait comme s'il n'y en avait que deux. Alors que là, il y en a plein, et puis ça part dans toutes les directions, et c'est un énorme problème de construire une subjectivité qui soit pas complètement fragmentée. Et donc, ceux qui reconnaissent ceci et ceux qui imaginent des politiques à partir de ceci plutôt qu'à partir de l'adhésion ou de l'adhérence, on pourrait les appeler les individualistes. Et le souverainisme, ça serait pas seulement de défendre la nation française contre l'Europe, ça serait aussi de se dire, tiens, il y a un principe de souveraineté, que ce soit la souveraineté du moi ou que ce soit la souveraineté d'un État-nation, qui est indispensable.
On va à la rencontre de deux individus, en quelque sorte, Omar et Greg. C'est pour la deuxième partie de l'émission avec François Beaune qui nous rejoint. Ce sera après un extrait du nouvel album de Jean-Louis Murat, Hartung.
La cour de Naples me prend pour un neveu. regrettera notre absence le jour du feu.
La suite dans les idées, Sylvain Bourmont.
Contre-courant politique, c'est le titre du livre que fait paraître Yves Citon chez Fayard dans cette nouvelle collection Raison de plus, un livre qui explore les nouvelles polarités politiques, des polarités politiques qui, loin de simplement opposer des individus les uns aux autres, les traversent. Et c'est ce qu'on peut voir dans un autre livre, un livre de littérature, cette fois qui paraît aux éditions Le Nouvel Attila et qui est signé François Beaune, Omar et Greg. Bonjour François Beaune.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, on vous doit un certain nombre de livres qui ont souvent pris la forme de portraits. C'est d'une certaine façon des portraits composés à partir des paroles de ces deux personnes que vous avez rencontrées, que vous avez écoutées, enregistrées, et qui nous donnent à voir, au fond, des trajectoires sociales qui sont aussi des trajectoires politiques. Qui sont Omar et Greg, et pourquoi avoir décidé de faire un livre de leur parole, François Beaune?
Ce terme de individu opposé à individu, je trouve, il est très intéressant. Et on découvre à travers c'est même paradoxal, les concepts concrets d'Yves, des choses qui font imploser le réel. Un peu ce que faisait Diderot, en fait, je trouve, dans sa philosophie concrète, hein, de ses expériences imaginaires, ça m'a fait penser à ça aussi.
Si vous citez Diderot, vous allez faire plaisir à Yves Citon, plaisir, qui est au départ un spécialiste de cette époque. Voilà,
mais parlons d'Omar et Greg. Omar et Greg aussi actuel que Diderot.
Alors, ça m'a fait penser à individu, comment on conçoit un personnage en littérature en fonction, en fait, de la matière contrainte, que ce soit par exemple pour mes premiers romans qui sont des fictions complètes mais qui sont faits d'un amoncellement d'un grand tas de papiers qui sont des expériences, des observations, soit que j'ai prises des notes que j'ai prises en regardant la télé
ou dans la rue,
peu importe, mais tout ça étant un amas qui à un moment donné va s'incarner dans un personnage, ou alors là pour le coup avec Omar et Greg, où je suis dans le documentaire littéraire, où je n'ai rien eu à remettre en... Il y avait l'amas, mais il fallait donner... Mais la mise en scène était presque imposée, puisque c'est deux êtres qui sont totalement opposés au départ. Il y en a un qui est chasseur de skin antifa dans la ZUP d'Orgeval, l'autre qui est militant FN. Ça, c'est le début. Et à la fin, ils vont se retrouver, parce que c'est une histoire marseillaise mais vraie,
ils sont amis et l'un vous présente l'autre et vous décidez de les faire dialoguer et parler en parallèle.
C'était le hasard de la vie qui a fait que je suis tombé sur d'abord Greg, qui était donc le voisin d'une copine, qui a commencé à me parler, on dînait, de comment il venait de quitter le Front National, comment il a été déçu par ce parti, qui a commencé à me faire une critique de l'intérieur du FN. Et moi, comme j'ai réellement, c'est un peu comme Yves, le FN, je connaissais pas, j'ai très peu d'amis FN. Et donc, ce qu'il me disait, ça m'a intéressé, parce que ça m'a étonné, d'entendre cette parole-là. Et je lui ai proposé, est-ce qu'on pourrait pas passer un peu de temps? Voilà, juste à t'interviewer. Je te demande pas de me parler du FN d'ailleurs.
Non, mais
parce
vous
que
le problème, vous demandez de vous
le
raconter
sujet,
sa
toi.
Vie au fond.
Voilà, c'est raconte-moi ta vie. Moi, je fais que des portraits de personnages. Je les fais monter. Alors, je lui explique dans cet entresort qui est en toute humilité, ma petite comédie humaine à moi. Où, depuis d'ailleurs un homme louche ou un ange noir. J'essaie de faire des portraits de personnages qui sont plus ou moins fictionnels en fonction de la nécessité de mettre ou non de la fiction pour les faire advenir. Là, il fallait surtout pas en mettre, il me semble, parce que tout était déjà là, quoi. C'était juste le cadeau, quoi. Et donc, je l'entends et on se voit souvent, deux fois par mois, des après-midi. Il me raconte sa vie. Je le faisais parler. Hein, je lui posais pas de questions particulières. Et puis, à un moment donné, il sèche. Et là, il me dit, François, je crois que j'ai plus rien à te dire. Je sais pas ce que je vais faire, là. Par contre, si tu veux, on peut aller voir Omar. Ah, mais c'est qui Omar? Omar, c'est un ami, et en plus, tu verras, il adore parler, et on a une histoire de dingue qui s'est passée au Front National ensemble. Et alors là, on va voir Omar, on va boire un thé, on rencontre Omar, on lui explique le projet, qui n'en était pas un, je savais pas du tout ce que je faisais, je savais même pas si ça allait donner un livre ou quoi que ce soit. Et puis, je découvre cette histoire qu'ils ont eue ensemble, en 2011, au Front National, avec d'autres protagonistes que sont Durbecq, Jean-Marie Le Pen, etc.
Alors, vous avez fait la rencontre, vous aussi, Yves Citon, d'Omar et Greg, mais vous l'avez faite médiée par l'écrivain François Beaune, en lisant ce livre, qui est composé de dialogues intercalés, au fond, de ces deux personnages qui permettent de lire ces trajectoires sociales qui sont pas juste deux trajectoires qui se croisent et finissent par se rencontrer, mais qui sont elles-mêmes faites de multiples croisements. Et j'imagine que vous avez retrouvé bon nombre des polarités sur lesquelles vous avez travaillé.
Absolument. Alors moi, je pourrais faire une lecture de ce livre qui traduirait certains moments ou certaines déclarations d'Omar et de Greg en termes de « là, c'est un propos arriviste, là, c'est un propos conflictiste », etc. Mais ça, ça intéresserait pas forcément tout le monde. Ce qui me semble plus intéressant, c'est de réfléchir à la façon dont on décrit habituellement, par des moyens non littéraires, ce type de personne. On va dire, justement, on va l'identifier au FN. On va dire, bah, c'est un militant, ou alors il a fait toute sa carrière dans le FN. Et on dit FN pour toute une partie des gens, peut-être comme nous, et ça fait une sorte de monstruosité, ou de choses innommables, etc., etc. Et puis voilà, c'est FN, et on fait une sorte d'impasse là-dessus. Là, on voit que, comme le disait très bien François, il a été dans le parti FN, et qu'il critique, alors rétrospectivement, mais on voit qu'il était critique dedans, et qu'il y a plein de tendances, alors de courants, de contre-courants à l'intérieur du FN lui-même. Et qu'il y a une énorme intelligence quand même de ces deux personnages. Ce qui est frappant et ce qui est très beau, c'est que vous montrez, il me semble, c'est une très belle illustration du principe de Rancière de l'égalité des intelligences. Ces personnages, ils sont attachants, ils sont avides de justice, alors ils se trompent dans les choses, ils sont idéalistes, etc. Mais ils ont voilà, on se sent très très proche d'eux, on met un petit peu le pied où ils mettent le pied. En même temps, on peut pas, donc on prend une distance, et ça nous fait voir ces courants, ça nous fait voir aussi à quel point on est réducteur lorsqu'on a des approches qui ne sont pas de la finesse de ce que vous faites. Le passage, par exemple, si je me rappelle bien, de Greg qui est sorti du Front National et qui maintenant est du côté du Front de Gauche. Et donc là, de nouveau, on se dit toujours, oui, mais ça va dans un sens, ça va dans l'autre sens. Et que finalement, peu importe, je dirais, ça reste une personne qui a soif de certaines choses. Moi, je vais me taire après, je vais juste reprendre cette notion de Bruno Latour d'attachement. Il me semble que c'est des individus ou des individus qui pense et essaye d'être fidèle à certains attachements. Et je trouve intéressant que Bruno Latour, dans Où atterrir, remette ces questions-là au centre de la politique. Et là, pour moi, c'est vraiment un document essentiel pour penser ce que c'est que les attachements aujourd'hui. Et en quoi ça fait exploser les partis, mais ça fait penser.
Oui, parce que ces trajectoires sont quand même assez incroyables. Vous avez Omar qui a longtemps été, avant d'être au FN, au Parti Socialiste, il défend donc...
Il n'a jamais été au FN, hein. Il n'a jamais été encarté au FN, il a eu cette tentation à un moment donné, mais parce qu'il a tout essayé, il explique qu'il a tout essayé.
Il a été longtemps au Parti Socialiste, dans les mouvements...
Il connaissait par cœur des discours de la SFIO, alors je ne sais pas si ça marque peut-être, mais...
Tout en étant sur des positions ou des sous-courants à l'intérieur du Parti Socialiste qui trouvaient Manuel Valls au début des années 2000 pas assez sécuritaire, par exemple. Donc ça donne à voir aussi une image de cette mouvance très complexe, François Beaune.
Ouais, Omar, il a tout essayé, vraiment. Il est allé voir toutes les chapelles. Et puis, alors, on le voit bien dans le livre aussi, à quel point ce Front National, en fait, est un... château de cartes très fragile, hein, que toutes ces petites chapelles qui le composent aussi sont des gens qui se détestent les uns les autres. Et ça, on le vit de l'intérieur, à travers cette expérience folle de faire entrer les musulmans de Marseille dans le vote Front National, parce que c'est quand même un truc. Et la démarche d'Omar, c'est quand, après sa conversion aux frères musulmans à Bordeaux, puis ensuite... il arrive à en sortir et il devient sunnite orthodoxe, pour pas dire salafiste, eh bien, qui va faire ce geste, et il se réclame d'ailleurs du prophète en faisant ce geste, d'aller à la rencontre de ses ennemis et d'aller faire dialoguer la communauté musulmane. Lui, il habite Porte d'Aix. Pour ceux qui connaissent Marseille, Porte d'Aix, c'est juste en face du conseil régional. Alors il a plus qu'à traverser la rue, et quand il est arrivé avec ses barbus, ça leur a fait bizarre quand même, hein, le Front National. Mais Durbecq et les dirigeants sont venus pour rassurer tous les vigiles que, en fait, non, ça n'était pas une prise de territoire, d'assaut. Une prise d'assaut, mais que c'était bien une tentative de discussion. Voilà. Et tout ça avec donc Greg qui, lui, était contrôleur à SNCF, mais qui a tout, lui, pour le coup, il a toujours été militant FN. Et là, il en sort et c'est douloureux parce que c'était, voilà, tout son monde s'écroule. Et là, il faut qu'il se reconstruise. Là, il s'est mis à la photo, il fait d'autres choses. Mais c'était un vrai défi pour lui aujourd'hui de reconstruire sa vie après toutes ces années de militance. Il était colleur d'affiches. Enfin, il nous raconte par le menu, en fait, le parcours d'un militant FN de l'âge de 14-15 ans. Il était au collège, il se faisait taper dessus par ses... Il est devenu obèse, il était en grande souffrance, ça allait pas avec son père, et qui a trouvé cette famille de substitution au FN. Enfin, c'est vraiment ces deux parcours qui sont à l'opposé au départ, qui vont arriver, et ça nous parle quand même vraiment de la société française, à se croiser à cet endroit improbable qu'est le FN PACA, quoi.
Et avoir un projet, il y a un chapitre, c'est du projet, je crois, et le projet, c'est justement de mettre en place une convergence entre les patriotes du FN et un certain courant de gens qui se réclament comme musulmans. Et ce projet-là, il me semble justement, ça fait exploser nos repères habituels. Alors ça nous désoriente, pour le coup. Là, on ne sait plus comment approcher ça. Et ce que je retire de votre livre, c'est vraiment qu'on a besoin de moyens littéraires pour avoir cet effet de désorientation, qui en lui-même est un petit peu paniquant, mais c'est un moment peut-être nécessaire pour comprendre un peu que les choses sont compliquées.
Alors ces moyens littéraires, ils sont d'autant plus efficaces et d'autant plus puissants qu'ils sont sobres, en fait, François Beaune. Vous avez réussi à trouver la forme, parce que ça aurait été facile, vous êtes romancier, d'en rajouter, d'injecter de la fiction, comme vous le dites, ou d'injecter de la couleur, comme aurait fait un journaliste. Vous avez une forme qui est très, très simple, et d'autant plus efficace qu'elle est simple.
Ben, je voulais que le lecteur se prenne cette réalité de front, et puis qu'il en fasse... voilà, c'est toujours le même principe qu'avec les autres personnages, j'ai fait la même chose. Je vois pas pourquoi j'aurais changé, même si là c'est de la non-fiction.
Là c'est un montage quand même, c'est un travail de montage.
Il y a un travail, c'est très radiophonique en fait, parce qu'on entend les deux voix se croiser de leur naissance à aujourd'hui, et en chronologie en fait, mais avec des thèmes qui sont abordés en fonction de la chronologie. Moi il me semblait qu'il fallait pas que j'en rajoute, il fallait que je laisse le lecteur, c'est le principe de cet entresort, en empathie, pour tenter de voir à travers les yeux d'Omar, à travers les yeux de Greg, de faire cette expérience qui n'est pas nous, qui est le propre de la littérature, de donner à penser à travers des personnages incarnés. Et y a des gens qui m'ont dit, mais t'as pas peur de avec ce livre, de dédiaboliser le FN? Je leur dis, bon, déjà, il est dédiabolisé, ça fait un moment, je pense pas que je puisse faire quoi que ce soit par rapport à ça. Mais moi, ma peur, c'est plutôt qu'on continue à le diaboliser, c'est-à-dire qu'on continue à être dans le déni, à ne pas regarder, à ne pas écouter les gens qui ont cette tentation-là. C'est parce que si on veut changer les choses, il faut se le prendre, le réel. Sinon...
Voilà, en tout cas, deux livres qui proposent des expériences de lecture qui font une large place au lecteur. Deux livres pour se construire, Contre-courant politique, signé Yves Citon chez Fayard. Omar et Greg, signé François Beaune. Au Nouvel Attila, vous trouvez les références bibliographiques sur la page de La Suite dans les Idées, une page où vous pouvez réécouter l'émission, où vous pouvez également vous abonner au podcast. C'était La Suite dans les Idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production, Marie Dalquier. À la technique aujourd'hui, Cédric Châtelus. À la réalisation, Anne Pérez Franchini. Et c'est Christine Bernard que vous retrouvez dans quelques instants sur l'antenne de France Culture pour une histoire particulière.